Bonjour frère Charles Benoît.
Bonjour Anne-Rose.
On est très heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Présence à Lourdes. Vous êtes franciscain du Bronx et vous allez aujourd'hui nous parler de votre vie, de votre mission. Qui sont les franciscains du Bronx connus dans le monde entier? Qui êtes-vous, vous frère Charles Benoît? Comment vous êtes tombé dans cette marmite franciscaine, si je puis dire? Et puis qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le diocèse de Tarbes et Lourdes? Vous allez nous dire tout ça aujourd'hui. Alors d'abord, on va commencer par le tout début. Les franciscains du Bronx, alors c'est un nom qui est connu dans le monde entier, mais en fait votre vrai nom c'est franciscain du renouveau. C'est peut-être bien de commencer par ça déjà.
Voilà, c'est bien souvent il y a un petit peu de confusion, mais c'est aussi ce nom de franciscain du renouveau peut porter à confusion. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça veut dire qu'on est en lien avec le renouveau charismatique, alors que non, l'idée en fait c'est de reprendre une parole de Saint François qui sur son lit de mort a invité ses frères à commencer à nouveau. Elle dit, frère, commençons à nouveau parce que jusqu'à maintenant, nous avons fait que très peu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre avec le Christ?
Bah voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est ne jamais se considérer arrivé et constamment rechercher à se renouveler dans notre relation au Père, en fait.
Alors, si les franciscains du renouveau sont appelés franciscains du Bronx, c'est parce que le Bronx, c'est un nom d'un quartier de New York très pauvre, dans lequel votre communauté, votre congrégation s'est installée. Alors, qu'est-ce que la congrégation est allée faire dans ce quartier-là qu'est-ce qu'elle y a vécu? Alors, il faut dire aussi, mais vous allez nous l'expliquer, que les franciscains du Bronx, ils ne vivent pas que dans le Bronx.
Voilà. Donc, le Bronx, c'est là où on a commencé. Ce sont 8 frères capucins de New York, New Jersey, qui ont le désir de retrouver une vie auprès des populations les plus pauvres.
Donc là, on est au début du 20e?
Donc là, c'est en 1987.
Oui, plutôt fin du 20e.
Donc voilà, il y a 38 ans. Et ils sont allés voir l'archevêque de New York, qu'ils connaissaient très bien, qui leur a dit « Ah bah enfin, vous vous décidez
!» Ah, ils étaient attendus.
Bah voilà. Ouais. Et donc, il leur a confié une église d'une paroisse qui venait d'être fermée, en disant « Bah voilà, je mets l'ancien presbytère à votre disposition ». Et ensuite, il y a eu l'école primaire attachée à la paroisse et le couvent des sœurs qui s'occupait de l'école qui a fermé aussi et qui a été mis à la disposition. Donc, c'est vraiment là où on a commencé. La nouvelle communauté s'est forgée.
Avec tout à faire.
Et voilà, exactement.
Ou à refaire.
Voilà, donc 8 frères. Il y a un frère quand même qui était un petit peu le catalyseur, qui connaissait tous les autres et qui les a fédérés. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et donc, il a fallu qu'il quitte les Capucins pour créer quelque chose de nouveau. En fait, notre habit, c'est l'habit capucin, avec un petit détail, c'est que ce n'est pas la même couleur. On a un habit gris, qui est la couleur des missionnaires. C'est pour ça que le surnom des franciscains dans le monde anglophone, en particulier au Royaume-Uni et en Irlande, ce sont les frères gris. Et si on va en Californie, dans toutes les missions franciscaines, les frères, sur les statues, les tableaux, les frères sont en gris. Et donc, on a retrouvé, c'est pour ça, la couleur des missionnaires.
Et ça, c'est important.
Oui, parce que ça fait partie de nos charismes.
Alors justement, frère missionnaire, c'est quoi au fond votre mission? Quand on s'installe comme vous l'avez fait en 1987 dans un quartier où il y a tout à refaire, certainement pas que la vie paroissiale, on commence par quoi? On a quel objectif? Comment on met un cadre? Est-ce qu'à ce moment-là, on sait où on doit aller?
Alors, une particularité, justement, c'est que ce n'est pas nous nous occuper de la vie paroissiale. On ne s'occupe pas de paroisse.
De la vie de tous les jours, mais pas de la vie de la paroisse.
On n'est pas responsable d'une paroisse.
Donc, vous n'êtes pas curé, en fait.
On n'est pas curé. Et ça, c'est très clair dans nos textes. C'est à 2 ou 3 endroits différents. Nous ne prenons pas de paroisse.
Pourquoi c'est important, ça?
Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, le fait de prendre une paroisse peut avoir un impact très important sur la vie fraternelle. Et notre vocation, ce n'est pas d'être berger, notre vocation, c'est d'être frère. Et ça, c'est différent. Et donc, notre premier témoignage, notre première mission, hormis la vie de prière qui est première, Ensuite, c'est notre vie fraternelle. C'est de vivre en tant que frère et de témoigner, donc en tant que religieux, mais encore plus en tant que religieux franciscain, on est appelé à avoir un témoignage prophétique de la vie à venir.
Donc, si je vous suis bien, votre première mission, c'est de vivre entre frères et d'être vraiment un témoignage de cette vie fraternelle que vous avez entre vous, avant d'être frère avec ceux qui vivent autour de vous, quoi.
Exactement. Mais ça, c'est important parce que du coup, quand on parle aux jeunes de nos quartiers difficiles, qui ont l'expérience de vie familiale chaotique,
oui.
Avec des familles déconstruites, reconstruites. Quand je suis arrivé dans le Bronx, j'ai eu l'impression que tout le monde était demi-frère, demi-sœur, cousin, cousine, les uns des autres, parce que c'est tellement éclaté dans tous les sens.
Donc la première pauvreté, c'est ça, c'est celle d'une famille détruite.
Oui, oui. Mais du coup, quand on leur parle de pardon, etc., quand on leur parle, ça porte parce qu'ils nous voient vivre ensemble, avec quand même, ils perçoivent quand même des grandes différences de personnalité, d'origine, ne serait-ce que de nationale, mais aussi sociale, etc. Et ils voient que malgré tout, on arrive à s'entendre et à être frères les uns les autres et ne pas s'entretuer. Et donc, du coup, quand on leur parle de pardon, de s'aider les uns les autres, ça porte un petit peu plus parce qu'ils voient qu'on le vit.
Quand vous dites quartier difficile, alors on entend les difficultés familiales, mais c'est quoi un quartier difficile ?
C'est ce qu'on appellerait des ZUP en France, je crois, ou peut-être que ça a changé depuis, parce que ça fait 23 ans que je suis parti de la France, donc, mais des zones urbaines populaires, c'est-à-dire des zones où il y a des populations ayant un fort pourcentage de chômage ou bien des métiers avec des salaires très très bas. Donc quand même des cités HLM, enfin c'est ce genre de quartier-là. Donc avec cette difficulté familiale, il y a les difficultés économiques, éducatives.
Oui. Enfin, donc ça veut dire l'accès à l'école ou...
Voilà, il y a tout plein, toutes ces choses-là qui sont ensemble. Donc, c'est aussi des quartiers où il y a pas mal de violence. Sur New York, ce sont des quartiers où les gangs sont quand même omniprésents. Oui. Et
donc, il y a la drogue, la prostitution, la violence, voilà, le trafic d'armes peut-être, ou des genres de choses.
Voilà. Oui. J'ai entendu des coups de feu dans la nuit, enfin... pas très régulièrement, mais c'est arrivé. Et j'ai passé 2 ans après la formation initiale, je m'occupais des enfants du quartier. Et quand ils arrivaient, que je voyais qu'ils avaient les valises sous les yeux, je dis « Oh, t'as pas bien dormi, toi, l'année dernière ?»« Ah bah oui, non, ils ont pas arrêté de se tirer dessus encore la nuit dernière. » Donc voilà, c'est vrai qu'il y a de la violence, la guerre des gangs, ça existe. J'avoue que j'ai découvert un petit peu ça parce que, ayant grandi en Normandie, dans une petite ville de 18 000 habitants, c'était.
Alors justement, c'est ça. Alors on reviendra sur votre parcours en deuxième partie de l'émission, mais quand même, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir. Au fond, là, je vous vois en face de moi, frère Charles Benoît, vous êtes tout souriant, vous avez l'air en pleine forme, et on se dit, mais qu'est-ce que des frères vont chercher ou dans des lieux comme ça? Au fond, quand vous êtes face à cette immense misère ou cette détresse même, à 8 ou 9 ou 10, je ne sais pas combien vous pouviez être au maximum de frères, mais c'est une goutte d'eau face à un océan de détresse, quand même.
Oui, mais en même temps, il y a un effet multiplicateur. Donc, c'est-à-dire, on s'occupe de quelques personnes, mais leur vie transformée rayonne et transforme d'autres vies également. Donc, et on ne mesure pas, heureusement, finalement, on ne mesure pas l'impact qu'on peut avoir. Mais donc de vivre auprès des populations les plus pauvres et d'essayer de remédier à certains des problèmes, c'est en fait remédier à des... Enfin, comment dire, notre apostolat, il y a un aspect matériel. Donc, on a un foyer d'accueil pour sans-abri à New York, on a des soupes populaires, un centre d'accueil pour les enfants du quartier pour des activités, soutien scolaire, choses comme ça. Mais toutes ces choses matérielles, c'est un prétexte pour être en contact avec ces populations, de manière à pouvoir témoigner. Alors, pour moi, si j'ai à résumer en une phrase la spiritualité franciscaine, c'est être témoin joyeux de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc voilà, ça résume un petit peu notre but, c'est d'amener les gens à faire l'expérience de l'amour du Père pour eux.
Et ça, c'est possible partout. Partout, il y a un terreau qui peut être fertile, sur lequel peut émerger l'amour de Dieu, vraiment.
Ah oui, 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 oui. Quand j'étais dans le Bronx, il y a un garçon qui est arrivé. Donc tous les samedis soirs, on avait un gymnase et donc portes ouvertes, les jeunes du quartier pouvaient venir passer la soirée pour s'amuser, simplement. Règle très simple, se respecter les uns les autres. Donc ça veut dire pas d'injures, pas de bagarres. Et la règle la plus importante, s'amuser. Et un jour, il y a un garçon de 9-10 ans. Faut s'imaginer Mike Tyson en miniature. Et il est arrivé avec l'esprit de la rue, c'est-à-dire on ne se laisse pas marcher sur les pieds, enfin, etc. Et quand il est... Donc, son attitude correspondait à ça. Et donc, très rapidement, il a fallu que je lui demande de partir. Parce que forcément, quand on a cette attitude-là, on arrive à au moins se chamailler verbalement. Mais... pour être, il a toujours accepté les conséquences de ses actes. Donc, il ne s'est jamais rebellé contre le fait que je lui demande de partir. Par contre, chaque semaine, il restait plus longtemps. Jusqu'au jour où il a réussi à rester jusqu'à la fin. Et là, j'étais impressionné. Et dès qu'il est sorti, il s'est mis à se bagarrer avec un autre garçon qui était là ce soir-là.
Il explosait. C'est à cocotte minute qui...
Donc, je les ai séparés. Ils sont allés à l'autre bout du pâté de maison. Je les ai suivis. Je les ai reséparés à nouveau. J'ai dit à l'oncle de l'autre belligérant, qui était juste un ado, qui était là ce soir-là avec nous aussi, « Allez, tu le ramènes à la maison. Il est l'heure de rentrer. » Et j'ai dit à le mini Mike Tyson, son prénom c'est Lolo. Je dis « Lolo, il est l'heure de rentrer. » Faut savoir que Lolo n'a jamais connu son père et vivait avec sa maman qui se droguait et se vendait pour pouvoir payer la drogue, en gros. Donc, il n'était pas le bienvenu à la maison. Et donc, c'est pour ça qu'il passait le plus clair de son temps dans la rue avec les copains. Donc, Lolo s'en va. Quelques minutes plus tard, j'entends une voix stridente. C'était la maman de Lolo qui cherchait l'autre garçon pour lui régler son compte à sa manière. Il est où? Il s'appelle comment? Où habite-t-il? Et quand elle a compris que personne ne répondrait, elle s'est retournée vers son fils avec une litanie d'injures. « T'as encore posé des problèmes, je vais te mettre la tête au carré, tu vas voir ce que tu vas prendre quand on rentre. » Et encore, je dis ça très correctement, comparé à son vocabulaire. Et là, j'ai voulu intervenir pour lui montrer que Lolo avait fait d'énormes progrès et qu'en fait... oui, il y avait une bagarre, mais qu'il n'avait pas posé de problème toute la soirée. J'ai pas pu dire plus de deux mots. Dès qu'elle a entendu ma voix, elle s'est tournée vers moi, elle m'a fusillé du regard, littéralement. Et elle m'a dit, toi le moine, ta gueule, rentre dans ton couvent, la messe a dit, je veux pas t'entendre. Et encore, je dis ça d'une manière correcte, la traduction là est édulcorée, on va dire. Et donc, elle m'a coupé le sifflet. Et la seule chose que j'ai pu dire, en regardant Lolo directement dans les yeux, et je dois dire que quand elle a parlé, j'ai vu une transformation. J'ai vu Lolo, son visage, se transformer avec un mélange d'effarement et de profonde tristesse. Et la seule chose que j'ai pu dire, c'est de lui dire directement, en le regardant dans les yeux, « Lolo, j'ai essayé, Lolo, j'ai essayé. » Donc ça, c'était samedi soir. Le lundi après-midi, il vient au centre à l'heure du soutien scolaire. Alors, il allait à l'école, mais de là à faire ses devoirs et venir au soutien scolaire, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, c'était la première fois qu'il faisait ça. Donc, je dis, tiens. Et la première chose qu'il a demandé, ça a été de me parler. Donc, je me suis assis avec lui et j'ai entendu un petit bonhomme de 10 ans me dire « Je suis venu pour m'excuser de ce que ma maman t'a fait. » Je connais Jésus, elle ne connaît pas. Et elle n'a rien ni personne pour l'aider. Donc, un petit bonhomme de 10 ans qui prend la responsabilité d'action, des actes d'un
qui
adulte.
Qui assume, oui. Ouais. Qui assume à la place de l'adulte.
Exactement. Mais en plus, qui me parle d'un Jésus Et sa manière d'en parler, c'est pas « je connais des choses à propos de Jésus ». Non, non, il m'aide. Et elle ne le connaît pas. Et je me suis posé la question, comment Lolo a fait la connaissance de Jésus? Et en fait, c'est simplement en venant au centre où on lui a permis d'être un enfant de 10 ans, où il n'avait pas besoin de regarder par-dessus l'épaule pour voir s'il y avait quelqu'un qui était prêt à le tabasser ou quoi que ce soit, et où il avait le temps de pouvoir être vraiment un enfant et jouer. Et on le faisait simplement au nom de Jésus, vu qu'on commençait simplement avec une petite prière genre bénédicité, mais pas pour la nourriture, mais de bénir le temps, les jeux, etc. Donc il savait qu'on le faisait au nom de Jésus.
Donc comme il avait du temps, il avait aussi du temps pour ouvrir son cœur.
Ben voilà. Donc, je raconte un petit peu cette histoire parce que je pense que ça illustre bien, en fait, le cœur de nos apostolats. C'est pas forcément des grandes choses flashy, mais par des petites choses, un contact régulier, pas forcément quotidien, mais au moins une fois par semaine, ou enfin, voilà, forger une relation, et à travers ça, sans forcément prêcher la bonne nouvelle, mais simplement en la vivant.
Oui.
Eh bien, les gens qu'on sert le perçoivent.
On marque une pause, frère Charles Benoît. On vous retrouve dans un instant pour continuer cette discussion. Nous sommes toujours en compagnie de frère Charles Benoît, franciscain du Bronx, franciscain du renouveau. Frère Charles Benoît, vous nous avez parlé juste avant la pause d'une expérience que vous avez vécue dans ce quartier de New York, le Bronx, avec un jeune garçon de 10 ans. Cette vie dans les quartiers avec les personnes des quartiers. Vous l'avez donc d'abord commencé au Bronx, dans le Bronx, et puis ensuite, vous avez vu qu'il y avait des besoins ailleurs dans le monde. Comment la congrégation, la communauté s'est-elle établie ailleurs? Et puis comment vous vous dites, bah, tiens, il faut qu'on aille là, en fait, il y a un besoin là, il y a un appel là?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que nous, on ait les ressources humaines. Donc, ça dépend aussi des entrées.
Parce qu'au début, vous étiez 8, hein, vous nous avez dit.
Voilà. Et maintenant, on est à peu près 140 répartis dans 4 États des États-Unis. Donc, New York, New Jersey, Albuquerque en Nouveau-Mexique et en Californie, on est à Oakland. Et sur New York et New Jersey, on a 8 fraternités. Et une à Albuquerque, une à Oakland. Et autrement, on est en Amérique centrale, à Honduras, au Nicaragua. Et en Europe, on a 4 maisons, 2 en Irlande et 2 en Angleterre. Donc, comment on discerne où aller, etc. En fait, ça dépend. On doit être invité par l'évêque. On ne peut pas s'inviter. C'est l'évêque qui nous invite. Et on discerne, voir déjà s'il y a des lieux qui correspondent à notre charisme.
Oui.
Notre charisme, comme je disais, qui est de vivre auprès des plus pauvres, avec et de les servir, mais aussi de répondre aux besoins de la nouvelle évangélisation. Ce qui explique aussi pourquoi
Oui, la mission, elle englobe
tout
ça.
Voilà, ouais. Qui est d'évangéliser, enfin, ouais, ouais. Etc. Mais donc, on est venu en Angleterre d'abord et ensuite en Irlande, aussi parce que nous avons eu des Anglais et des Irlandais qui sont rentrés dans la communauté.
Ah oui, donc qui ont pu vous sensibiliser aussi aux réalités de leur pays ou de certains quartiers de leur pays qui avaient besoin de votre aide. Quoi.
Voilà, et les frères se sont dit, tiens, si le Seigneur nous envoie des frères de ce pays-là, c'est peut-être que il nous appelle à y aller.
Le fait que vous soyez des communautés internationales, donc avec des frères vraiment de toutes les nationalités ou de plusieurs nationalités, ça c'est important, y compris dans ce mélange de cultures, dans le lien que vous pouvez établir avec les personnes des quartiers.
Ah ben ça fait partie du témoignage, parce qu'ils voient bien qu'on est différent.
Ouais.
Mais c'est une réalité qui est plus réelle justement dans les maisons en Europe, par exemple, qu'aux États-Unis. Parce que sur les 140 qu'on est à l'heure actuelle, il y a à peu près les 3/4 qui sont américains. Après, dans le dernier quart, on doit avoir 13 ou 14 différentes nationalités. Principalement anglophones. Donc,
et vous n'êtes pas le seul français.
Mais on est 4 français en tout. et voilà, on a 13, 14 nationalités différentes. Là, dans la fraternité où je suis, on est 6 frères. Il y a un Australien, Un Irlandais, un Anglais, deux Américains et un Français.
Aujourd'hui, vous êtes à Londres, vous?
Je suis à Londres aujourd'hui. Donc, mon petit itinéraire, j'ai commencé mon postulat et noviciat à Harlem, à la fraternité Saint-Joseph. Ensuite, 2 ans et demi d'apostolat en tant que frère en vœux temporaires dans le Bronx. Après, j'ai fait 4 ans de théologie avant d'être ordonné prêtre. Et donc là, la maison pour les séminaristes, pour nous, est à Yonkers. C'est une ville qui est au nord du Bronx. Donc ça reste dans la grande agglomération. Et après l'ordination, c'est là où j'ai été envoyé en Irlande et où j'ai habité dans les deux maisons d'Irlande pendant 13 ans avant d'arriver à Londres il y a 2 ans.
Pour vous, votre vocation, elle est vraiment liée à cet apostolat avec les pauvres ou vous aviez le désir d'être prêtre et après vous avez découvert...
Non, ma vocation s'enracine dans un événement que j'ai vécu à l'âge de 14 ans. Donc, même si j'ai grandi dans une famille croyante, pratiquante, une famille de boulangers, je suis la 5e génération d'une famille de boulangers, y a eu des blessures intérieures, etc., qui fait qu'à l'âge de 14 ans, j'étais suicidaire. Je me sentais rejeté. Et je me souviens du jour où j'ai décidé de passer à l'acte. On dit « ça ne suffit pas de me plaindre et voilà, passons à l'acte ». Ou du moins, bon, essayons de trouver comment faire. Et là, immédiatement, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que m'est venu à l'esprit l'impact que ça aurait sur ma famille. En particulier, ma maman et ma sœur jumelle. Et là, je me suis rendu compte que j'étais aimé plus que je ne le percevais. Et... tout ce que j'avais appris jusque-là, donc la foi que j'avais, c'était une foi intellectuelle, une foi de tradition. Je croyais parce que je faisais confiance à ceux qui me parlaient de Jésus. Tout d'un coup, j'en ai fait l'expérience. Je me suis senti enveloppé d'un amour incroyable. Et le désespoir, les ténèbres dans lesquelles j'étais sont partis immédiatement dissous. Et j'ai fait l'expérience d'une joie et d'une paix intérieure.
La joie parfaite, c'est ça?
Oui, non, ça c'est autre chose, mais enfin...
C'est un petit goût de joie parfaite.
Voilà. Et donc, immédiatement, j'ai eu l'envie, le désir de partager le trésor que je venais de découvrir. Cette bonne nouvelle que je venais de recevoir, que ma vie valait le coup d'être vécue, malgré les difficultés, malgré tout ça, les blessures, qu'elle valait le coup d'être vécue parce qu'il l'avait donnée à sienne pour que j'aie... accès à la vie éternelle, pas une vie de misère mais de bonheur avec son Père.
C'est comme une conversion, en fait.
Oui. C'est là où je suis passé de cette foi de tradition à une foi de conviction. Je l'ai vraiment rencontré. Et donc, je disais tout à l'heure qu'être franciscain, c'est être un témoin joyeux de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est vraiment ce qui m'a animé à partir de ce moment-là, l'âge de 14 ans. Mais à l'âge de 14 ans, ce n'est pas le moment d'entrer au noviciat.
À moins de s'appeler Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et d'être un petit peu têtu.
Donc ça m'a pris un certain temps avant d'aboutir chez les frères.
Mais du coup, votre vie a été transformée quand même.
Voilà,
à ce moment-là.
Exactement. Alors, les circonstances de ma vie étaient les mêmes. Certaines difficultés étaient les mêmes. Mais je n'étais plus tout seul à y faire face.
Vous venez dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, d'abord un peu en repos, on a le droit de le dire, et puis aussi parce que vous allez mener une mission paroissiale, on va en parler dans quelques instants, mais vous allez aussi rencontrer des jeunes. Et du coup, en vous écoutant, là, je me dis à quel point ça doit être important pour vous de pouvoir parler à des jeunes lycéens ou étudiants, ces fameux jeunes dont on dit souvent qu'ils sont complètement paumés et qu'ils sont obsédés par l'intelligence artificielle et toutes les bêtises qu'ils peuvent trouver sur le web. Et ils ne sont peut-être pas les seuls, d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est important pour vous de pouvoir vous adresser aux jeunes et de pouvoir témoigner de ça, de cet amour que vous avez découvert à 14 ans et qui est aussi pour eux, quoi.
Tout à fait. Parce qu'en fait, ils sont à un âge où, logiquement, il y a une soif d'idéal. Normalement, il y a cette question de que vais-je faire de cette vie qui souffre devant moi? Et donc, c'est vraiment un moment de donner un petit peu des directions ou des moyens peut-être pour découvrir des choses qui... qu'est-ce qui est important? sur quoi s'ancrer, comment se poser les bonnes questions pour répondre au désir que chacun d'entre nous a au fond du cœur, qu'on a tous en commun, c'est ce désir de bonheur. Après, il s'exprime d'une manière différente. Il y en a qui vont dire j'ai le désir d'avoir une belle voiture, ou je sais pas, enfin bref. Mais derrière, vraiment, c'est parce qu'on pense que cette chose matérielle va m'apporter ce bonheur dont j'ai soif.
Donc vous rencontrerez les jeunes de l'aumônerie de Tarbes le vendredi 21 novembre. La séance d'aumônerie hebdomadaire. Sera un temps d'échange avec ces jeunes lycéens et étudiants.
Et jeunes professionnels également.
Sur cette question de la vocation, justement, et d'aider les jeunes à discerner, j'imagine que vous avez l'habitude de faire ce genre de témoignage auprès des jeunes. Est-ce que vous observez ou vous entendez une évolution ? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont plus paumés que les jeunes d'hier, pour être un peu direct ?
J'en suis pas sûr.
Important de le dire parce qu'on a l'impression s'habitue à un discours toujours un petit peu affolant, donc c'est important aussi de remettre les choses un petit peu à clair.
Non, en fait, là on se rend compte que c'est pas forcément lycéens et étudiants, mais peut-être les jeunes professionnels, donc plutôt ceux qui ont dans la deuxième moitié de la vingtaine, on va dire, ils ont grandi avec un smartphone, etc.
Ouais.
Et on se rend compte qu'un bon nombre d'entre eux ont appris à reconnaître les fake news, à reconnaître tout ce genre de choses. Et ça a provoqué une recherche de la vérité. Le fait de dire, mais comment on s'y retrouve là ? Parce que ça va dans tous les sens. Une chose est son contraire juste après. Donc, comment j'arrive à savoir où est la vérité ? Et on sent qu'il y a quelque chose derrière ça qui fait qu'il y a plus de recherche. Je trouve qu'il y a presque plus de maturité dans ce domaine-là. Et particulièrement ces deux dernières années, à chaque fois que j'ai rencontré des groupes de jeunes adultes comme ça, la qualité de leurs questions montrait qu'ils avaient déjà bien potassé le sujet. Et je me suis rendu compte, vaut mieux que je sois à la hauteur et préparé pour pouvoir leur répondre. Parce qu'il y a
Exigeants.
Ils sont exigeants.
Oui. Mais c'est bien.
Ah oui.
Alors, vous venez aussi dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous rencontrerez ces jeunes donc, le vendredi 21 novembre. Et puis, ensuite, il y aura un week-end, samedi 22 et dimanche 23, consacré à une mission paroissiale du côté de Lannemezan. Mais voilà, alors ça s'appelle une mission paroissiale, mais il y a une dimension diocésaine puisque toutes les personnes du diocèse qui souhaitent y participer peuvent y participer. C'est quoi une mission paroissiale ?
Alors, c'est en fait l'occasion de raviver un petit peu le feu. La vie paroissiale peut parfois tourner un petit peu à la routine ou choses comme ça. Et donc, c'est notre manière d'aider et d'encourager. Comme je le disais tout à l'heure, on ne prend pas de paroisse, mais on aide en venant ponctuellement, en soufflant sur les braises.
Donc, une paroisse vous fait appel, ça peut être n'importe où dans le monde, une paroisse vous fait appel, et avec le curé et son équipe, vous organisez un temps comme ça pour rebooster un petit peu les troupes.
Voilà, exactement. Exactement. Et le but, c'est pas simplement pour les brebis qui sont déjà bien installées, mais en ranimant le feu, que ça s'étende et s'éparpille.
Ça veut dire quoi, vous allez faire de l'évangélisation de rue ?
Non, mais peut-être que, comme je disais tout à l'heure pour nos apostolats, quand on amène des personnes à faire une rencontre plus profonde, eh bien, ces personnes-là vont sans s'en apercevoir, en fait, rayonner et amener d'autres personnes à dire « Ouh, t'as quelque chose, qu'est-ce que c'est et comment t'en es venu là ?»
Alors concrètement, comment ça va se passer samedi 22 et dimanche 23 à Lannemezan ? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre à vivre ?
Donc, en gros, on va se mettre en contemplation de Dieu. Et donc, le premier temps... donc, on commence samedi matin à 11h en contemplant le Dieu Père bien-aimant. Et donc, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pas seulement, ça ne va pas être un discours théologique, parce que ça, on n'est pas dominicain ou jésuite. On est franciscain et on aime bien avoir les pieds sur terre et les mains dans le cambouis. donc ça va être d'une manière concrète, incarnée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ensuite, un repas partagé sorti du sac. Un petit temps pour aider à la digestion, où on va sortir, se balader dans la rue et au besoin inviter les gens qu'on croise à se joindre à nous. Ça permettra de se dégourdir les jambes avant de se relancer l'après-midi, où on va contempler le Père miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire que non seulement Dieu est amour, mais il est miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et encore une fois, concrètement pour ma vie. Et donc, voilà, ça sera en début d'après-midi, avec ensuite la possibilité de faire une démarche qui me permet de faire l'expérience de cette miséricorde. Et après la messe anticipée du dimanche, qui sera d'ailleurs animée par une chorale et un orchestre folklorique, pour, en l'honneur de Sainte-Cécile.
Ah bah oui, c'est le...
Mais ça on n'y est pour rien, c'est le calendrier qui...
C'est la Sainte-Cécile, voilà.
Après, donc le soir, on se tourne vers Marie. Donc il n'y a pas besoin de venir à Lourdes pour se tourner vers Marie, on peut le faire aussi à l'Anne-Mezan.
Et on peut le faire dans beaucoup d'endroits dans les Hautes-Pyrénées parce qu'il y a beaucoup de sanctuaires dédiés à la Vierge. La Vierge Marie a été bonne avec la Bigorre et les Quatre Vallées. Elle a beaucoup visité cette terre-là. Mais donc, on peut aussi vivre une expérience mariale à l'Anne-Mezan.
Voilà. Et en gros, on va voir qu'est-ce que ça veut dire d'être disciple à l'exemple de Marie.
De Marie.
Et on va terminer par une petite procession et renouveler une consécration à Marie pour ceux qui le désirent à la fin de la soirée. Donc voilà, ça c'est le samedi. Et le dimanche, c'est principalement le dimanche après-midi. Et là, on essaie d'inviter le plus de gens possible à se joindre à nous ce dimanche après-midi pour faire l'expérience de la présence guérissante de Jésus dans l'Eucharistie.
Donc ça, on peut tous venir.
Exactement.
Avec un fardeau énorme ou même sans fardeau, on est bienvenu pour découvrir, faire cette expérience de l'amour infini de Jésus.
Exactement. Et ça, on a essayé de le caler dans l'après-midi et que ça se termine pas trop tard pour que les gens aient le temps de venir des quatre coins du diocèse et de rentrer et être prêts pour la semaine aussi après. Donc, si mes souvenirs sont bons, on commence à 13h30 jusqu'à 16h. On est sûr d'avoir
terminé
à
16h. Voilà. Et on a le temps de rentrer chez soi. Donc, c'est un week-end de contemplation, de prière, de fraternité, de joie, voilà, d'amour du Christ aussi, d'expérience d'amour du Christ pour nous. Voilà. Et ça, c'est ouvert à tous. Ça se passe à l'Anne-Mezan. Alors, toutes les informations pratiques, vous en avez donné déjà pas mal, mais toutes les informations pratiques sont sur le site du diocèse et puis sur notre application Au Clocher. On va arriver au terme de cette émission déjà, frère Charles Benoît. Je voudrais qu'on... Pour conclure quand même, revenir sur cette vie que vous avez, franciscain du Bronx, c'est pas rien quand même. Voilà, les personnes qui nous écoutent et qui sont dans le diocèse ou pas trop loin pourront venir vous rencontrer lors de ce week-end à l'Anne-Mezan, 22 et 23 novembre. Mais peut-être en un mot, qu'est-ce qui forge le cœur d'un franciscain du Bronx? On sent qu'il y a de l'amour fraternel, bien sûr, on sent aussi une certaine audace, du zèle, puis il faut être en forme quand même. qu'est-ce qu'il y a dans le cœur d'un franciscain du Bronx?
Au risque de me répéter, c'est justement ce feu qui vient d'une rencontre personnelle et directe avec le Seigneur.
Ça ne vous a jamais quitté, ça, depuis 14 ans, depuis votre...
Non, mais ça a été mis à l'épreuve. Ça a été mis à l'épreuve. Donc, après le lycée où je disais ouvertement que je voulais devenir prêtre, je suis allé en IUT. Première fois que je n'étais pas en école catho, première fois que je n'étais pas à la maison pendant la semaine. Et là, je ne vais pas décrire les tentations de la vie étudiantine, mais disons que je suis tombé dans un certain nombre qui fait que j'ai eu le sentiment de ne pas être digne, de ne plus être digne. Et il a fallu, on va dire, une autre conversion d'une certaine manière, c'est de me rendre compte que aucune personne n'est digne et que je ne suis pas digne si je me repose sur mes propres forces, alors que si je me repose sur lui, c'est lui qui me rend digne. Et ça, c'est la petite Thérèse qui m'a appris ça. Dans son autobiographie, elle dit quelque chose de, dans ce genre. Dieu ne choisit pas ceux qui sont dignes, mais rend dignes ceux qu'il choisit. Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai accepté ça, je dis « Ah !» Et là, Charles de Foucault, Saint François, Saint Augustin me sont venus à l'esprit. Des saints qui ont eu des jeunesses, on va dire, assez...
frivoles.
Voilà. Et qui, malgré tout, sont devenus de très grands saints. Donc, je crois que c'est, ça fait partie du caractère des frères. C'est de savoir qu'on n'est pas des supermans, mais que c'est celui qui nous fait vivre, qui nous permet d'aider les gens à porter leur fardeau. Et c'est pour ça aussi que notre vie de prière est importante, parce que ces fardeaux, on ne les garde pas, on les passe au Seigneur, qui nous dit « Venez poser vos fardeaux et prenez mon joug qui est léger et facile à porter. »
Merci beaucoup pour votre témoignage, frère Charles Benoît. On vous souhaite un bon repos ici en France pour quelques jours ou quelques semaines, et puis une belle mission dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, où vous serez donc vendredi 21 novembre avec les jeunes lycéens, étudiants, jeunes professionnels, et puis ensuite samedi 22 et dimanche 23 pour une mission paroissiale et diocésaine, à Lannemezan. C'est ouvert à tous, et encore une fois, il y a toutes les indications sur le site catholique65.fr. Un grand merci à vous, frère.
Merci beaucoup, Anne-Rose.